Dans ce second épisode de notre série de podcasts sur le maréchal Vauban, Michel Virol nous décrit les qualités d'arythmicien et d'organisateur du maréchal Vauban, alias Sébastien Leprestre. Autrement dit, ce chapitre nous dévoile les méthodes que Vauban a pu mettre en place, par souci d'efficacité, pour assurer la charge si importante qui était la sienne, à savoir protéger la France, le fameux précaré de Louis XIV. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode de cette série, Vauban l'ingénieur, sachez que Michel Virol, intervenante de ce podcast, est professeur émérite d'histoire. Elle est surtout l'auteur d'une thèse de 15 ans de travail qui lui a permis d'écrire un livre de plus de 1700 pages sur les oisivetés de Monsieur de Vauban, ainsi que d'autres livres dont la biographie de référence « Vauban, de la gloire du roi au service de l'État » aux éditions Champvallon. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Philippe.
Nous allons traiter aujourd'hui d'un chapitre particulier de la compétence de Vauban, qui est l'arythmicien et l'organisateur. Mais je vous laisse introduire ce sujet.
Nous avons parlé de Vauban ingénieur. Il faut voir maintenant dans les responsabilités qu'il a eues au sein de la monarchie française du XVIIe siècle, pour comprendre comment il a pu développer une partie de ses aptitudes qui l'ont amené à être le premier à vraiment calculer, réfléchir en matière de ressources, de population, d'aménagement possible. Donc la fonction qui va lui permettre d'avoir accès aussi à des informations, c'est celle de commissaire général des fortifications qu'il obtient en 1678. Il a 45 ans, donc il est toujours aussi ingénieur, mais il va être responsable des fortifications du royaume et des hommes, les ingénieurs qui s'en occupent. Les fortifications du royaume exigent de lui qu'il voyage sur toutes les frontières, au nord, à l'est, au sud-est, au sud, à l'ouest. Donc, ce qui signifie que Vauban va être sur les routes de France en toute saison, à cheval, puisque c'est en général comme cela qu'il voyage, les chevaux de poste ou ses propres chevaux, qui l'amènent à parcourir les campagnes, à s'arrêter dans les auberges, accompagné de 4 ou 5 hommes. Et il doit bien sûr tenir table, comme il dit, c'est-à-dire les inviter, les nourrir dans les auberges. Parfois, il loge chez les intendants ou les nobles qu'il connaît, certains de ses amis. Mais cette vie errante sur les routes de France, déjà, l'amène à réfléchir sur la piètre qualité des routes françaises, malgré tous les travaux qui avaient été généralement réalisés sous Henri IV avec le ministre Sully, qui avait une responsabilité très forte et le désir de couvrir la France de routes. Celles-ci étaient encore souvent embourbées, ce qui, pour les charrettes et les différents transports qui permettent le développement de l'économie, était un handicap. Vauban ne cesse de réfléchir à l'amélioration de ces routes, et ce qui va l'amener aussi à proposer de développer le transport par eau qu'il juge plus sûr, moins coûteux, parfois un peu plus rapide. Bon, la rapidité, ce n'est pas sûr, mais au moins la sûreté.
Et la rapidité relative au poids transporté dans une péniche, je ne sais pas si on les appelait des péniches à cette époque, en tous les cas.
Oui, les gabarres. Mais de ce fait, il va réfléchir aussi à comment creuser des canaux, les rendre accessibles et surtout éviter qu'ils soient dans les mains de privés qui font payer des péages qui alourdissent bien sûr le coût de transport des marchandises. Et c'est là qu'il va écrire son mémoire sur les voies navigables, sur les canaux, et conseiller au roi d'en faire un monopole royal pour justement éviter les péages. Et donc permettre la libre circulation des marchandises. Il compare le royaume à un corps humain et les voies de communication sont les artères, le sang qui doit circuler. Donc ça, c'est sa métaphore qui va courir dans tous ses écrits jusqu'à la fin de sa vie. Donc cette itinérance fait de Vauban un observateur hors pair et le seul grand observateur de ce royaume au XVIIe, parce qu'il est capable de voir dans les campagnes si les récoltes sont bonnes, si les fermes sont en bon état, ou au contraire, le délabrement, l'abandon des chaumières, l'abandon des cultures, le font écrire notamment après les années terribles de disette de 1693-1694, que la France est dans un état de délabrement, de pauvreté terrible.
Alors que c'est le plus grand pays d'Europe en nombre, en population.
C'est le pays le plus peuplé d'Europe et c'est ce qu'il va essayer de démontrer aussi, puisque nous n'avons pas de dénombrement, c'est le terme qu'on utilisait à la place de recensement qui arrivera un peu plus tard, de la France. Mais il sait que c'est le pays le plus peuplé. Et d'ailleurs, il va essayer de le démontrer en proposant une méthode pour faire le dénombrement de la population. Il fait imprimer cette méthode en 1686. C'est une méthode révolutionnaire, si j'ose dire, puisqu'il propose de compter par tête d'habitant, par sexe, par âge, ceux qui ont moins de 12 ans, ceux qui ont plus de 12 ans. Il prévoira même des colonnes pour les serviteurs, pour les écoliers. Et il propose de faire ce recensement rue par rue dans les villes, faire des synthèses par paroisse, puis par ville, afin de donner un outil de gouvernement au roi.
Compte tenu des moyens qu'il avait à cette époque pour faire ce type d'analyse, c'était un travail considérable, ça devait prendre un temps fou.
Alors, il le propose hein, en 1686, et normalement, c'est une méthode qui aurait pu être utilisée par les intendants, qui sont en fait les responsables administratifs. Arriver à faire des estimations de population, mais à partir des feux, et c'est-à-dire aussi la base de calcul pour le prélèvement de l'impôt, impôt essentiel, c'est-à-dire la taille. Donc on évaluait, on faisait une estimation de la population par feu, qui pouvait varier entre 4 et 5 habitants par feu, c'est-à-dire par famille. Et c'était le coefficient multiplicateur. Et les intendants proposaient des estimations de population. Mais Vauban veut être beaucoup plus rigoureux et avoir un recensement par tête. Bon, il considère aussi qu'un gouverneur de place forte doit avoir ses données précises, savoir combien de bouches il y a à nourrir, quelle est la population à défendre, de combien il propose un recensement qui établirait aussi des sortes de statistiques pour les métiers, combien on a de boulangers, combien on a de maréchal ferrants, combien on a d'armuriers, ce qui est essentiel effectivement pour un gouverneur de place forte. Lui-même fait réaliser un dénombrement qui est exceptionnel. En 1682, c'est celui de Douai, la ville de Douai, dont il est gouverneur pendant une année. Il fait réaliser ce recensement qui a de 282 pages qu'on trouve manuscrit aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. C'est tout à fait remarquable. Donc c'est ce qu'il veut généraliser en faisant imprimer la méthode. Il l'envoie à Seignelay, Jean-Baptiste Seignelay, qui est le fils de Colbert, qui a succédé à son père à la marine et aux colonies. Et celui-ci envoie le dénombrement dans les colonies françaises de Nouvelle-France, c'est-à-dire au Canada, et dans les Antilles. Et là, seulement en 87, en 1688, ont été réalisés des recensements, ce qui fait que paradoxalement, on a pas le recensement de la France, du Royaume, mais on a le recensement de la Nouvelle-France et des Antilles.
Alors, n'y avait-il pas un recensement fait par l'Église au niveau des naissances et des décès par chapelle, d'une certaine façon, déjà à cette époque ?
Non, c'est pas vraiment un recensement. Non, on n'a pas de... parfois...
Non, pas un recensement, mais ils avaient un état des naissances et des décès, donc ils avaient déjà des chiffres beaucoup moins précis que ceux que vous...
Alors, les registres paroissiaux, qui sont les registres des baptêmes, des mariages et des enterrements, catholiques, n'ont pas été utilisés, n'étaient pas utilisés pour avoir des informations précises sur la population, aussi parce qu'il y avait une sorte d'interdit religieux sur compter les créatures de Dieu. On ne faisait pas de recensement aussi parce que l'Église n'était pas encline à donner aussi ces informations parce qu'on ne devait pas compter les créatures de Dieu. Bon, ce tabou est un peu mis de côté au XVIIe siècle et Vauban va donc proposer ce recensement. Il n'a jamais été appliqué en ce sens, mais lui va essayer de faire des estimations, c'est-à-dire qu'il va demander tous les mémoires que font les intendants sur leur généralité, notamment lorsque une grande enquête va être menée pour l'éducation du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, qui serait amené un jour à gouverner. Il ne le sera pas, malheureusement, parce qu'il va décéder, avant Louis XIV, d'ailleurs. Mais pour son éducation, Louis XIV a prévu de demander des mémoires à tous les intendants pour avoir une description des différentes provinces de France, et les intendants faisaient des estimations à partir des ressources fiscales, à partir de la taille notamment. Donc Vauban réunit ces informations, fait un calcul de la superficie des différentes provinces, des estimations de population, et il va calculer ce qui est nouveau, ce que personne ne fait à l'époque. Le rapprochement entre population et superficie, c'est ce qu'on appelle la densité de population. Et lui l'appelle nombre de personnes par lieu carré. Et il va donner, notamment dans la dîme royale, une estimation de la population française, mais aussi des variations de densité entre les provinces. Vauban estime que la population française est de un peu plus de 19 millions d'habitants et écrit qu'il ne faut pas écouter ce que les historiens, écrivains étrangers écrivent sur la France, notamment l'Hollandais Vossius ou l'Italien Gregorio Leti, qui estime à 12 millions ou même 15 millions la population française. Ils disent qu'ils veulent affaiblir en fait la monarchie et la France. Il faut bien affirmer que donc la France est très peuplée.
Serait-ce le début de la désinformation ?
Oui, on est au XVIIe siècle, on est complètement dans une guerre de l'information et de la désinformation. Donc non seulement il arrive à une estimation de la population de la France pour dire bon, c'est un pays qui est peuplé, qui est un pays riche, donc qui pourra aussi arriver à bien se défendre. Mais il ne faut pas que le roi perde de vue que dans les provinces de France, il y a des inégalités très importantes. Et c'est son calcul de la densité qui, pour lui, le prouve. Il y a des provinces qui se dépeuplent, qui sont presque vides, d'autres qui sont bien peuplées. Donc le rôle du monarque, c'est d'équilibrer les provinces et donc de faire très attention à ce que certaines ne s'appauvrissent pas trop. Donc il est pour l'intervention du roi dans l'économie, mais aussi dans le peuplement.
Faut-il préciser que Vauban n'était pas un homme de cour, comme vous le soulignez dans votre livre, et il parcourait de par son métier les routes de France, et il était un de ceux qui, au sein de du premier cercle de Louis XIV, connaissait le mieux la société française, sa diversité, sachant que les autochtones, les citoyens français, à l'époque, qu'on n'appelait pas des citoyens d'ailleurs, ils rayonnaient quelques lieux autour de leur lieu de vie, en fait. Il n'y avait pas d'échange comme il y en a aujourd'hui du fait des moyens de transport et des facilités que l'on peut avoir. Donc Vauban avait vraiment une vue très très précise. Enfin, c'était un observateur de la société française qui était en première loge, si je puis dire, pour connaître sa diversité et sa richesse.
Absolument. Et sa formation d'ingénieur l'avait incité aussi à aiguiser son attention, son observation, à noter ses observations. C'est ça aussi qui est très importante, selon les lieux. Il prend des notes dans ses voyages. Il essaie d'obtenir le maximum d'informations quantifiées pour après les jouer avec ses nombres. C'est ça l'arithméticien. Jouer avec ses nombres pour faire une démonstration de la triste situation, selon lui, de la France à la fin du XVIIe siècle, à cause de la multiplication des guerres, mais aussi à cause des impositions, à cause de la politique fiscale du royaume, qui appauvrit complètement la population. C'est là que c'est intéressant, parce qu'il passe d'une observation à une quantification, et il considère qu'il doit faire une démonstration quantifiée au roi pour lui prouver qu'il a raison. C'est complètement moderne. Peu d'hommes le font à son époque. Et lorsqu'il produit en fait un tableau avec les variations de densité de la population selon les provinces et qu'il dit au roi, c'est à vous d'équilibrer cette population, vous ne pouvez pas laisser des déserts, il fait œuvre politique et œuvre critique sur la gouvernance de la France. Et il le prouve avec des chiffres. Donc c'est nous, on est habitués aux démonstrations quantifiées. Il est vraiment novateur dans le domaine.
Comment le roi et son gouvernement ont-ils pris en compte ces chiffres qui ont été révélés par Vauban ?
Est-ce qu'ils les ont pris en compte ? Est-ce qu'ils en ont eu connaissance ? C'est ça aussi le problème. Dans la dîme royale, le roi en a eu connaissance puisque Vauban a lu au roi pendant 3 soirées consécutives en mai 1700 le traité de la dîme royale. Donc il en a parlé au roi directement. Et en 1700, la guerre de la Ligue d'Augsbourg s'était terminée avec le traité de Ryswick en 1697. Et on n'était pas encore entré dans la nouvelle guerre, celle de la succession d'Espagne. Donc c'était une période de paix où le roi avait bien voulu écouter ce que Vauban lui a dit. En 1701, la guerre reprenait parce que Louis XIV acceptait le testament espagnol et de nouveau l'Europe était embrasée par une guerre et la France aussi. Donc tout ce que Vauban avait pu écrire ou dire ne pouvait être écouté parce qu'on était revenu dans une dynamique de guerre. Mais si on revient à l'observation, l'observation de Vauban, à sa quantification, il va non seulement utiliser les chiffres, mais à mon avis, j'ai été très, très intriguée par la mise en forme de ces chiffres. Vauban fait des tableaux à double entrée. Et il met dans des colonnes des éléments que l'on n'avait pas pris la peine de rassembler jusque-là. Et il propose même à ses lecteurs, il leur dit, vous lisez de manière horizontale, vous lisez de manière verticale, à l'intersection vous avez des chiffres. C'est-à-dire qu'il sait très bien que les lecteurs potentiels ne sont pas habitués à la lecture d'un tableau à double entrée, donc il leur donne des consignes de lecture. Et j'ai cherché qui utilisait en fait ces tableaux à double entrée jusque-là. On en trouve dans quelques tables, les tables d'artillerie, hein, sur la portée des armes, mais on en trouve un peu dans la marine aussi pour le calcul de distance, mais personne n'utilise vraiment le tableau à double entrée pour mettre en forme des données chiffrées et expliquer aux lecteurs les conséquences de certaines politiques.
Ce qui s'est largement démocratisé avec le tableau Excel aujourd'hui.
Oui, absolument.
C'est ce principe-là.
Nous sommes habitués à lire les tableaux à double entrée, mais pour que Vauban prenne la peine de dire au lecteur, vous lisez comme ça, vous lisez voilà, comme ça et comme ça,
comment l'utiliser.
C'est que vraiment, le lecteur potentiel, l'honnête homme qui va lire à mémoire de Vauban n'est pas habitué.
C'est totalement novateur, en fait.
C'est complètement novateur.
Mais ce n'était pas pratiqué non plus dans d'autres pays. Vauban était vraiment initiateur de ce principe ?
De ce principe, oui. Oui. Alors, j'ai pas étudié tous les documents administratifs des autres pays européens, mais mes collègues me disaient bon, ça commence à se généraliser au début du 18e, notamment en Allemagne où il y a l'outil administratif va se développer dans des formes, je dirais, très pratiques et très visuelles aussi. Donc, il est dans ce courant et il n'a pas, à mon avis, été initié aux pratiques germaniques. Par contre, ça se passe à peu près au même moment dans différents pays. En Angleterre, au même moment, William Grant, William Petty développent des calculs sur des documents qui n'existent qu'à Londres après la grande peste de 1666. Londres a voulu qu'il y ait des tables de mortalité pour essayer de connaître en fait les décès consécutifs à des grandes épidémies. Donc par paroisse, on a eu des tables de mortalité qui étaient rédigées par semaine. Et des futurs statisticiens, je vais arriver à le dire, ont utilisé ces tables pour travailler sur la mortalité à Londres et essayer d'établir des pourcentages de mortalité par rapport à la population, en recherchant aussi les causes de mortalité. Bon. Vauban a peut-être eu connaissance, je dis bien peut-être, eu connaissance de ses travaux par l'Académie des sciences, dans laquelle il rentre à partir de 1699, parce que des Anglais étaient des correspondants étrangers de l'Académie des sciences et ont fait connaître ces travaux de Grant et de Petit. Donc il a pu en avoir connaissance, mais ça n'a fait que, je dirais, augmenter sa résolution d'arriver à faire des calculs extrêmement précis sur la population. Mais il se place dans ce courant de ce que l'on appelle l'arithmétique politique, qui n'est pas encore l'économie politique à proprement parler, qui va se développer au XVIIIe siècle. Mais on dit arithméticien politique parce que c'est à partir de ces calculs, de ces additions, de ces multiplications, que ces hommes vont mener une réflexion politique sur la nécessité de prendre des mesures pour protéger la population, arriver aussi à connaître un fonctionnement économique du pays.
Le but étant de rationaliser les décisions par rapport à un état des lieux, si je puis dire, de la population et de toute l'activité économique qui tourne autour de cette population.
Absolument. Pour l'Angleterre, c'était aussi des mesures, des lois sur la pauvreté, mais l'aménagement aussi de la ville de Londres par des mesures sanitaires aussi. Pour Vauban, ça va devenir un outil de boussole, il dit lui-même, une boussole du gouvernement. Une boussole pour le roi, pour lui permettre de mieux gouverner. Mais il écrit à plusieurs reprises, pour arriver à bien gouverner, il faut connaître la population. Donc, la connaître quantitativement parlant, la connaître aussi dans sa diversité, connaître aussi les productions, les productions du royaume, les diversités régionales pour permettre la circulation des produits. Et tout cela doit être organisé par le roi, qui a pour fonction, il le rappelle bien pour le canal des deux mers, le canal de Riquet, que lui-même va améliorer à partir des années 1686-1687.
Celui que nous appelons le canal du Midi.
Le canal du Midi. Et il faut absolument améliorer la circulation, donc les voies de communication. Et ce qui l'amène à s'intéresser absolument à tous les domaines, aux hommes, aux productions, aux circulations, aux droits sur les marchandises et bien sûr à la fiscalité, ce qui va être le nœud en fait final de sa réflexion. Donc nous étions partis des fortifications qu'il fallait connaître, bien sûr, d'où la nécessité de voyager, d'aller les inspecter, de faire des projets, d'évaluer le coût de ces projets. Ce sont les fameux devis. Et ça, on ne comprend pas le travail de l'ingénieur, l'ingénieur de fortification, si on ne comprend pas qu'il est obligé de faire des devis, c'est-à-dire de quantifier les matériaux, de bien connaître le prix de ces matériaux, de connaître le prix des marchés, pour arriver à quantifier le coût de ces travaux.
J'imagine qu'il quantifie aussi, bien évidemment, la quantité de travail à fournir pour construire tel ou tel édifice.
Le prix, bien sûr, de la main-d'œuvre.
Ce que l'on appelle le maîtré aujourd'hui.
Voilà, et le toisé à l'époque. Donc ça fait partie du travail de l'ingénieur, c'est pour ça qu'il doit bien connaître aussi les calculs, il doit bien connaître la géométrie bien sûr, mais aussi l'arithmétique. Donc l'autre travail de Vauban et de l'ingénieur dont il s'occupe en tant que commissaire général des fortifications, c'est de s'occuper des marchés publics. L'ingénieur est toujours présent lors du marché public qui va organiser donc le travail sur la place forte, le choix des entrepreneurs, aussi bien les entrepreneurs du bâti que les entrepreneurs de la ferronnerie, que les entrepreneurs, les serruriers, les charpentiers, tous ces marchés qui vont être pris au moins 10 ans à la chandelle et au moins 10 ans en présence de l'ingénieur, montre que celui-ci a une connaissance parfaite du prix du prix du travail, du prix des marchandises, du coût même. Et donc l'ingénieur, Vauban lui rappelle que l'ingénieur doit vraiment s'informer aussi sur l'état des finances d'un entrepreneur à qui on va donner le marché. Parce qu'il ne cesse de le répéter, puisqu'on est marché au moins 10 ans, il faut faire très attention que l'entrepreneur, s'il n'est pas solvable, n'abandonne pas le chantier au bout de 6 mois, au bout d'un an. On est là dans l'urgence de la construction. Une fortification, quand elle est décidée, c'est en général parce qu'on veut protéger telle ou telle frontière. Donc, il ne faut pas que le chantier soit abandonné rapidement ou qu'il faille rajouter des centaines de milliers de livres pour arriver à terminer le chantier. Donc, un marché public doit être mené avec une bonne connaissance aussi des personnes et des entrepreneurs. Un entrepreneur solvable coûtera moins cher, dit-il au roi, qu'un entrepreneur qui va être moins 10 ans le jour du marché public et qui s'avérera catastrophique un an plus tard. Donc, c'est cette connaissance fine de la situation qui fait que, très souvent, lorsqu'on observe les noms des entrepreneurs sur les différents chantiers des fortifications de Louis XIV, on s'aperçoit que ce sont les mêmes. Ce sont souvent des entrepreneurs qui vont suivre, en fait, les différents chantiers, surtout pour la maçonnerie. Moins pour la charpente, un peu moins pour tout ce qui est ferronnerie, où là on fait beaucoup plus appel aux entrepreneurs locaux. Mais le fait qu'il y ait des entrepreneurs de maçonnerie, on pourrait dire patentés pour les chantiers royaux, va faciliter aussi quelque chose d'extrêmement important dans les fortification de Vauban, c'est la circulation des techniques, la circulation des savoir-faire, et ce qui fait en fait de la France un observatoire, en cette fin du XVIIe siècle, un observatoire des techniques utilisées pour tout ce qui est construction, avec des savoir-faire qui circulent abondamment sur toute la France et même des savoir-faire étrangers qui sont importés à ce moment-là.
Il n'existait pas d'école qui formait à ces métiers, tout s'apprenait sur le terrain, d'une façon générale.
Oui, c'est en général la formation déjà de père en fils ou dans des ateliers qui forment les apprentis.
C'était le compagnonnage, l'école était le compagnonnage à l'époque.
Absolument, c'était les compagnons. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les maçons, par exemple, étaient souvent des maçons savoyards, alors même que la France a pu être en guerre contre la Savoie à ce moment-là. Donc, on a une sorte de tradition aussi dans les savoir-faire qui font qu'on va plutôt aller chercher effectivement des maçons savoyards parce qu'ils ont des techniques et ils ont un sérieux qui est apprécié, même si la Savoie, le duché de Savoie, est en guerre contre la France.
Et vous soulignez à juste titre que l'échange entre les différents prestataires de ces travaux faisait qu'il y avait une évolution, un enrichissement, une bonification de tout ce qui était construit à l'époque, en fait.
Oui, quand on trouvait des solutions techniques en matière de construction dans une des places fortes, ce savoir, justement, par la circulation de Vauban, par la circulation aussi des ingénieurs qui travaillaient pour lui, ces techniques ont pu circuler et améliorer nettement les techniques de construction.
Compte tenu du nombre de sites qui sont associés à Vauban, des distances à parcourir, des temps de trajet qu'il fallait à l'époque pour pouvoir se rendre d'un point A à un point B, Vauban, vous voyagez dans une baderne, je crois, c'est ça le nom qui lui est...
Non, on a
un bureau roulant.
Non, ça fait partie. La basterne fait partie des légendes vaubaniennes en quelque sorte. Moi-même, hein, quand j'ai travaillé sur Vauban, au début, j'ai pu écrire qui se déplaçait en basterne. C'est-à-dire, c'est une sorte de grande chaise à porteurs avec deux mules, une devant, une derrière. Et je me disais, on pouvait être assis dans la basterne, donc observer, écrire, et il pouvait avoir un secrétaire en face de lui, lui dicter, écrire. Bon, jusqu'au jour où je suis montée dans une basterne. Et là, vraiment, pour faire des petites distances, oui. Pour faire les milliers de kilomètres qu'il faisait chaque année, non, c'était vraiment à cheval. Et d'ailleurs, Louvois lui écrit « J'ai réservé pour vous des chevaux de poste à tel endroit » ou « Prenez le bateau lorsqu'il a eu à descendre le Rhône ». Donc, il a pu utiliser différents moyens, mais c'était en général les chevaux et pas du tout la basterne. Et la basterne, on la trouve représentée sur un tableau qui est de la prise de grès de Van der Meulen, qui montre en fait que c'était plus un abri pour une observation possible lorsqu'il y avait un siège ou lorsqu'on voulait aller observer une place à proximité. D'autre part, la basterne était plutôt utilisée par des ecclésiastiques, déplacement d'un évêque, voilà. Donc des déplacements courts, bien protégés, pas du tout ceux du commissaire général des fortifications.
J'avais une autre vision, parce que quand on va au château de Bazoches, il y a une basterne qui est exposée parmi les différents objets de Vauban que l'on peut voir.
Oui, c'est ce qu'on écrit.
Il est écrit que c'était le moyen de déplacement de Vauban. Alors, oui. Ce que je voulais surtout souligner, c'était que combien de temps Vauban passait-il sur chaque chantier ? Parce que il n'était pas atteint du don d'ubiquité, il ne pouvait pas être partout à la fois, il devait nécessairement déléguer.
Alors, en tant que commissaire général des fortifications, j'y reviens à sa fonction, il est responsable des différents directeurs des fortifications. C'est-à-dire que la France est divisée géographiquement en directions des fortifications. Donc, on aura celle de l'Est, celle du Dauphiné, par exemple, celle de l'Atlantique. Et parmi les ingénieurs les plus chevronnés, les plus aptes, Vauban choisit et propose au roi de nommer un ingénieur qui a de l'ancienneté, de l'expérience et qu'il juge tout à fait capable. Donc, dans les différentes directions et après subdivisées en chefferies, on a des ingénieurs responsables. Donc, ils écrivent à Vauban leur écrit, il y a une communication entre eux, les dessins sont de fortifications, les différentes réparations sont validées par Vauban, mais ils délèguent sur place. Et d'ailleurs, on a souvent oublié, ou en tout cas on passe sous silence, des ingénieurs qui sont tout à fait capables. Vauban a éclipsé les autres, mais on pourrait parler de Niquet pour tout le Languedoc. On a aussi François Ferry, qui est un ingénieur pour toute la façade sud-atlantique, qui est, ce sont vraiment des ingénieurs hors pair, mais on les oublie, donc on essaie par nos écrits de leur rendre grâce, parce que vraiment, bon, ils sont très très bons.
Donc, ces ingénieurs sans lesquels Vauban n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait.
Absolument. Absolument. Et parfois, on attribue à Vauban ce qu'il faudrait attribuer à Ferry, ou ce qu'il faut attribuer à Niquet, ou attribuer à Richerand, ou à Tarade dans l'Est. Hein. Nebrizac, c'est François Tarade qui a largement travaillé sur le chantier. Donc, c'est des hommes qui ont souvent été reconnus, formés par Vauban et qui sont excellents. Ensuite, ils ont des sous-ingénieurs sur place, bon, qui travaillent avec eux. Donc, Vauban circule. Il correspond avec tous ses ingénieurs aussi sur place, ce qui lui permet de savoir que les chantiers qu'il a initiés ou qu'il a validés, parce qu'ils ont été proposés par d'autres ingénieurs, vont être bien menés. Mais parfois, il y a des correspondances qui sont vraiment très houleuses, parce que Vauban se fâche, vous n'avez pas respecté ce que je vous ai dit, vous avez fait ceci et cela, je vous demande de le détruire, de remplacer par... Enfin, bon, c'est... D'autres fois, il les félicite, oui, vous avez bien fait, voilà. Non, mais c'est un chef de service, et bon, voilà, il y a quand même 350 ingénieurs qui ont été recrutés et en fonction sous Louis XIV. Ça ne s'était jamais vu. Donc, multiplication de ces ingénieurs, ce qui fait que c'est un service dont il doit s'occuper. Il les recommande, il dit par exemple, bon, le Villeneuve qui a été nommé à Mont-Dauphin, il va toucher 600 livres, c'est ce que touche un ingénieur pour une année, il ne pourra jamais vivre à Mont-Dauphin où tout est cher, toutes les denrées sont chères, ce n'est pas possible. Donc le mieux c'est de le tuer, ou alors il emploie des mots très forts comme ça, ou alors il va passer à l'ennemi et vendre les secrets de la fortification. Il faut rémunérer décemment les ingénieurs, parce qu'il y a aussi un coût de la vie qui est différent selon les provinces.
Il faut fidéliser le personnel de qualité.
Absolument, parce qu'il sait très bien que ce sont des secrets, les places fortes sont des secrets que les ennemis veulent connaître. C'est exactement ce qui va se passer après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, où des ingénieurs protestants qui n'ont pas voulu revenir abjurer la foi protestante vont passer au service. Au service de l'Angleterre et des Provinces Unies, puisque c'est Guillaume III, donc le statoudeur des Provinces Unies, qui est devenu roi d'Angleterre en épousant la fille du roi d'Angleterre, Marie, et qui va avoir capté complètement la situation et comprendre l'intérêt d'attirer les ingénieurs français de Vauban au sein de la monarchie anglaise notamment, et il va créer le corps des ingénieurs français en Angleterre, arracher de l'argent du budget anglais pour payer des ingénieurs français qui immédiatement ont pour objectif de dessiner les places fortes françaises sur lesquelles ils ont pu travailler. J'ai pu suivre un jeune ingénieur qui est de l'île d'Oléron, Jean Thomas, protestant, qui a travaillé dans Place Forte, qui à un moment a rencontré Vauban, a pu travailler sous Vauban, et qui est passé au service de l'Angleterre immédiatement. Donc il a fui alors qu'il y avait interdiction de fuir. Il a réussi à passer, il est allé en Angleterre. On lui a immédiatement, pendant 2 ans, parce que les Anglais les ont payés pendant 2 ans, il a pu dessiner ce qu'il connaissait des places fortes et des secrets. Puis après, il a touché une demi-solde et puis plus rien. Et donc, il a essayé de se trouver du travail et il a fini finalement en Irlande, où là, les Anglais lui ont permis de construire aussi, de fortifier un peu à la manière française pour se défendre, puisqu'en Angleterre, il n'y avait pas de fortification. Depuis après la guerre civile, donc, qui a coûté la tête à Charles Ier en 1649, et où les parlementaires et les royalistes s'opposaient aussi par place forte, il y avait interdiction de construire des places fortes en Angleterre, sauf fortification des ports. Donc un ingénieur formé à la française, à la fortification, n'avait pas de travail, il n'avait plus de travail en Angleterre. Après avoir livré les secrets possibles des Français, il restait que l'Irlande, où là, les Anglais devaient effectivement lutter contre les Irlandais et ont pu fortifier. Mais c'est intéressant de voir aussi comment ces ingénieurs sont passés, d'autres comme le Goulon, est passé au service de l'empereur. Donc, les ingénieurs protestants, Vauban était fou, parce que quand il a écrit son mémoire sur... contre l'édit de Nantes, dans son mémoire sur la révocation, il a dit, mais aussi les ingénieurs sont passés au service de l'étranger, quoi, en fait. On ne peut pas accepter ça.
Avez-vous une idée du nombre d'ingénieurs qui sont passés chez l'ennemi ?
On évalue à une trentaine.
Une trentaine d'ingénieurs ?
D'ingénieurs, oui. Ouais. Ce qui est beaucoup, hein, ce qui est beaucoup.
Oui, parce que vous disiez oui. Tout à l'heure, il y en avait au total 250.
Oui, 250, mais qui n'étaient pas en fonction tout le temps, enfin 250 sur tout le règne. Ils n'étaient pas en fonction, disons qu'il y en avait, il y a pu en avoir une centaine qui étaient en fonction en même temps, payés en même temps. Et les... au total, finalement, ceux qui sont partis, il y a ceux qui sont partis pour des raisons religieuses, il y a ceux qui sont partis parce qu'ils ne se trouvaient pas assez bien payés, qui ont été attirés par les souverains étrangers qui savaient que la France avait parmi les meilleurs ingénieurs. Il y a ceux qui ont été travaillés dans l'île de Malte pour les chevaliers de Malte aussi, et qui ont contribué à la fortification de l'île de Malte. Donc c'est très difficile de savoir exactement combien, mais on en retrouve à l'étranger. Il y a ceux qui sont partis aussi au service de la Russie quand Pierre Ier a fait il a fait deux voyages en Europe occidentale. Tout d'abord dans les Provinces Unies, et là il a pu ramener des ingénieurs qui connaissaient bien l'hydraulique, qui allaient travailler sur la canalisation, la fortification de défense par eau. Et la deuxième fois, il est venu en France et il a essayé de ramener aussi des ingénieurs. Pour développer notamment ce qui va devenir Saint-Pétersbourg. Hein.
Voilà. Alors, est-ce que, compte tenu du fait que... Là, enfin, on parlait des... Vous parliez, pardon. Vous parliez des marchés publics. Est-ce que Vauban a influé les décideurs, les donneurs d'ordre des marchés publics, de façon à servir dans les intérêts du roi, bien sûr, mais sans mettre trop la pression sur les entrepreneurs pour ne pas les asphyxier, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait qu'ils soient solvables. Est-ce que ça a été suivi des faits? Ça s'est concrétisé de façon avantageuse ou pas?
Il a pu obtenir parfois sur des marchés bien précis que puisse être choisi tel ou tel entrepreneur, mais c'est surtout dans ses écrits qu'il mène une réflexion. Et il y a un mémoire qui est compris dans les oisivetés, donc son recueil de mémoires, c'est le tome 11, qui est une instruction pour le remuement des terres. Donc le titre est un peu énigmatique, mais Vauban a rédigé un mémoire pour essayer de fixer le prix du travail, notamment pour la tâche essentielle, première de la construction d'une fortification, qui est le transport des terres. Il faut faire un glacis, avant de construire, il faut remuer beaucoup de terre. Alors, dans le remuement de terre est assuré, alors, en partie par des paysans qui sont réquisitionnés, ordre du roi, il faut qu'ils abandonnent leur champ, leur travail pour venir remuer la terre, et par les soldats. Donc Vauban s'intéresse notamment au travail du soldat qui va remuer les terres pour la construction des fortifications. Donc il réfléchit à un juste prix donné à un soldat. Le juste prix pour lui, c'est celui qui est juste pour le roi, qui ne doit pas trop payer une main-d'œuvre et rester dans un équilibre par rapport au prix du travail d'un maçon ou d'un ouvrier spécialisé. et le juste prix pour le soldat qui va être payé en plus de sa solde, qui est de 6 sols par jour, mais sur lequel il doit payer sa nourriture, une partie de ses vêtements, notamment. Et donc, pour qu'il mette suffisamment d'ardeur dans la tâche de remuement des terres. Donc, il va mener des expériences et il va se servir notamment des travaux menés sur l'aqueduc de Maintenon. Donc ça me fait ouvrir un autre volet, celui du ravitaillement en eau des jardins de Versailles, qui est la grande préoccupation de Louis XIV, qui est vraiment le sujet dont on parle beaucoup, qui soucie non seulement les fontainiers de Versailles qui alimentent en eau toutes ces fontaines et qui, pour le plaisir de Louis XIV, doivent fonctionner tout le long de son parcours, mais qui malheureusement n'arrivent pas à fonctionner complètement parce que on n'a pas assez d'eau à Versailles.
Mais l'aqueduc de Maintenon, il a été construit avant ou après la machine de Marly ?
Alors, tout d'abord, la première solution qui a été trouvée, c'était de faire des étangs pour retenir une partie de l'eau tout autour de Versailles, pratiquement jusqu'à Trappes. On a tout un système d'étangs et de canalisations qui vont amener l'eau. Ça, c'est le premier temps.
Et les étangs de Hollande, à proximité de Rambouillet, en font partie ?
En font partie aussi. Donc, les deuxième étape, comme on n'a pas toujours pas assez d'eau, Louis XIV apprend que on a un spécialiste qui s'appelle Rennequin, Suallem Rennequin, qui est capable donc de construire une machine qui pourrait servir à faire monter les eaux de la Seine pour alimenter Versailles. Donc, il fait venir ce Rennequin qui va construire une machine, c'est la fameuse machine de Marly, qui doit monter donc les eaux de la Seine. Une machine qui est assez fantastique, mais avec des rouages en bois, qui fait un bruit effroyable, tout le monde dit, parce qu'elle fonctionne jour et nuit.
Elle était extrêmement bruyante.
Elle était très, très bruyante. Elle demande une maintenance, parce que les pièces en bois s'usent beaucoup, donc il faut du personnel, nuit et jour, pour
alimenter. Le principe de la machine de Marly, qui est à Lucienne d'ailleurs, pour être précis, en fait, c'était de monter des godets par palier, et toute cette mécanique était à la fois compliquée, fragile et très bruyante. Ce n'était pas un système de pompe comme on peut le voir, enfin, comme il reste certaines traces aujourd'hui de cette machine infernale, si je puis dire, où on voit des gros tuyaux qui acheminent l'eau sur le plateau de Lucienne.
Oui.
C'était beaucoup plus archaïque que ça, le fonctionnement de cette
Absolument. Machine. Absolument. Et surtout, avec l'étiage. En plein été, l'étiage de la Seine, au moment où on aurait eu besoin le plus d'eau pour les jardins de Versailles, la machine ne pouvait pas alimenter suffisamment les jardins, enfin les fontaines. Donc on est arrivé, c'est toute l'Académie des sciences va être saisie de cette question. Et notamment Philippe de La Hire, mais aussi les autres ingénieurs les scientifiques comme l'abbé Picard qui a écrit un traité de nivellement, ils vont tout aller observer à quel endroit on va pouvoir capter des eaux plus haut que Versailles et les acheminer vers Versailles. C'est comme ça que finalement La Hire va trouver que les eaux de l'Eure, de la rivière Eure, coulent plus haut que Versailles et qu'on pourra dévier une partie de l'Eure pour aller alimenter Versailles. Mais il va y avoir un passage un peu délicat de ce petit canal qui doit amener l'eau. C'est la vallée de l'Aris, où là, il faut trouver une solution technique pour faire franchir l'eau à ce canal. L'Académie des Beaux-Arts, qui va être saisie pour l'occasion, va proposer un aqueduc. Un aqueduc qui ressemble fort au pont du Gard. Et puisque Louis XIV est un César,
le prestige est important pour lui.
Voilà. Et c'est surtout important pour Louvois, qui est à l'origine, ministre Louvois, qui est à l'origine de ce projet, qui considère, quand Vauban, qui a été saisi, on lui a dit « il faut aller là, sur le chantier, pour surveiller, répondre aux difficultés techniques », Vauban, lui, dit « non, moi, j'ai une autre solution pour faire passer l'eau ». Et c'est un système de siphons, des siphons avec un système de tuyaux. Et Louvois lui répond, mais vous n'y pensez pas, un aqueduc rampant, il appelle ça l'aqueduc rampant, n'est pas digne de notre roi, donc vous oubliez votre projet et vous venez sur le chantier surveiller. Donc c'est le fameux aqueduc qui doit être construit au bout des terres de Madame de Maintenon, à qui Louis XIV a offert le château de Maintenon.
Aqueduc dont il reste de belles traces.
Ce qui a été construit, la première arche, alors qu'il devait être à trois arches en hauteur. Donc Vauban y arrive en 1685.
Donc, l'aqueduc n'est pas réduit parce qu'il a été détruit.
C'est parce qu'il n'a pas été construit.
Il n'a pas été construit en totalité.
Voilà. Voilà. D'accord. Donc, 1685, 1686, on va avoir des milliers de soldats qui viennent pour travailler dans cette zone qui est une zone marécageuse. Beaucoup meurent de fièvre. On les loge en priorité chez les protestants, dans les familles protestantes, pour les pénaliser, enfin, qui sont heureux. En principe catholique maintenant. Enfin bon, c'est un chantier qui est assez horrible. Et les 1687, c'est toujours pas fini. Il y a les premières arches qui sont construites. Vauban l'avait écrit, il avait dit on n'aura jamais le temps de construire l'aqueduc en entier. C'est une folie. Jamais l'eau n'arrivera à Versailles par ce moyen. Et effectivement, 1688, la guerre reprend, c'est la guerre dite de la succession de la Ligue d'Augsbourg, suite à la révocation de l'édit de Nantes, à la mobilisation des pays protestants. Et les soldats sont appelés sur les fronts, le front de l'Est, ils abandonnent le chantier. Et finalement, en 89, on abandonne tout. Et il n'y aura que la première série d'arches qui sera construite. Donc des milliers de livres investis à fond perdu. Et jamais l'eau n'arrivera à Versailles. C'est un échec cuisant que Vauban avait prescrit. Il était complètement hostile à ce système. Mais bon, c'était la folie de Louis XIV.
Eh bien, écoutez, Michel, je vous remercie de toutes ces précisions sur cette histoire de Vauban, maître des œuvres d'art et leader des ingénieurs, des métiers de l'ingénierie. Je suggère à nos auditeurs d'aller visiter le château de la Maintenon dans les Yvelines pour pouvoir voir ce qui reste de l'aqueduc, quels sont les vestiges que l'on peut voir de cet aqueduc, qui est magnifique d'ailleurs. Ça sera un bon moyen de pouvoir occuper ces week-ends en Île-de-France. Merci beaucoup, Michel.
Merci à vous.
Si comme moi, vous avez apprécié ce podcast « Génie soit-il », n'hésitez pas à lui mettre quelques étoiles et votre commentaire sur Apple Podcast. Et pour que le génie du maréchal Vauban alimente la matière grise d'un large public, Merci de partager cet épisode sur votre réseau social favori, à commencer par le bouche à oreille. Salut !